des demandes de parrainage. Alors, elles sont faites. Alors, la personne m'a dit, attendez, je vais me renseigner. Puis elle revient, elle me dit, ah ben, je sais pas. Ah bon, vous savez pas. Mais est-ce que M. Chirac, qui fait partie du Conseil constitutionnel encore, parce qu'il a atteint d'anosognosie, donc il se rappelle de rien.
Oh, si, quand même.
Il en fait partie du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a approuvé la loi du 1er août, comme quoi on pouvait interner n'importe qui avec un seul certificat médical. Donc, c'est marrant, non? On a un Conseil constitutionnel qui contient au moins un fou.
Alors,
que Chirac ne soit pas fou. Alors
qu'est-ce que tu trouves de triste, Myriam, dans cette soirée? Moi aussi, je trouve ça un peu triste que finalement le monde en soit arrivé là, quoi.
Oui, voilà.
Ouais, c'est ça.
Par rapport à... On parlait d'Oslo tout à l'heure, j'ai pas suivi non plus, tu vois. J'ai pas suivi non plus parce que je me coupe de plus en plus des informations. J'essaye de rester au courant, quand même. Mais je veux pas me faire polluer par des affaires horriblement négatives. Et puis le fait que si j'écoutais régulièrement tout le temps les infos, ça apportera quoi de plus à l'évolution de la société, je veux dire, si ce n'est que moi je me pollue, quoi. J'en suis arrivée là à non pas à me couper totalement, je me tiens au courant, je lis sur internet régulièrement les journaux. Mais télé, radio, machin, je veux pas, quoi. C'est
le nombre de morts. Moi, j'écoute quand même un peu. Hein. Donc, c'est le nombre de morts dans les attentats, tous les jours.
Oui, et tout le temps, c'est tout le temps, morts, tout le temps des trucs affreux, tout le temps.
Ou de la guerre.
Voilà. Alors, par rapport à cette nouvelle loi pour l'internement, je crois quand même qu'il faut un médecin. On peut pas dire mon voisin est dingue et hop, on l'embarque. Hein.
Il faut un psy.
Si, maintenant on peut, mais il faut préciser qu'il n'est plus question d'internement dans un hôpital parce que ça coûte trop cher, les hôpitaux ferment les uns après les autres. Il s'agit de soins ambulatoires.
Voilà, c'est ça.
Hein, et ça veut dire que on avait des exemples, les personnes n'ont pas voulu téléphoner ce soir parce qu'elles sont en justice, elles sont sur le point de gagner leur procès, elles ne voulaient pas compromettre leur chance. Mais elles nous ont donné des précisions. Et comme un idiot, je n'ai pas venu de dossier. On vous met en curatelle, mais on trouve n'importe quel prétexte. Il y en a un qui a été taxé d'anosognosie, justement.
C'est quoi l'anosognosie?
Eh bien, vous n'êtes pas du tout malade, apparemment. C'est ce qu'on a dit à Chirac. Ils l'ont bien dit à la télé, c'est passé en boucle. On lui demande, vous allez bien? Il vous répond oui, mais c'est faux. Le psychiatre a décrété que c'est l'anosognosie. Hein. Et voilà, vous êtes tout à fait normal, mais pour un psychiatre, non.
D'accord. Donc,
et on ne vous met pas dans un hôpital psychiatrique, ça coûte trop cher.
Mais vous avez des soins.
Voilà, et ça enrichit les industries pharmaceutiques, parce que les médicaments, les soins ambulatoires, ça veut dire aller voir un toubib qui vous fait une piqûre ou qui vous fait avaler des saloperies, et vous êtes accroché. Moi, je préfère les joints.
Alors, t'as Myriam, qui est une psy, qu'est-ce qu'elle en pense?
Et une fois que vous êtes mis en situation de vulnérable, alors au début, on s'attaquait aux vraies personnes vulnérables, les mémés qui avaient un appartement un peu trop convoité. Mais maintenant, on vulnérabilise des gens qui ont un bon salaire. Et on avait un exemple ce soir. Une personne qui gagnait 1600 euros, on lui en laisse 600 par mois. Et les 1000, ils disparaissent à gauche, à droite, dans des associations soi-disant de défense Union départementale d'aide aux familles, UDAF. Il y en a une par département. Gens-là, ils ont des salariés, il faut bien qu'ils vivent. Ils vivent de son salaire.
C'est-à-dire que tu veux dire que
cette personne est tout à fait normale.
Ces gens, mais pourquoi? C'est volontairement qu'ils donnent les 1000 euros par mois ou...
On est dans le système du vol organisé.
Alors, Myriam.
Oui, je vais répondre à ta question. J'ai encore la naïveté de penser, figure-toi, que les psychiatres sont des médecins qui sont là pour aider et soigner les gens. Qu'est-ce que je suis naïve, quand même. Hein. Il se trouve que je connais bien le milieu et que je sais que c'est pas parce qu'un internement a été déclaré que le psychiatre à l'hôpital va cautionner cet internement. Il y a des tas de gens... comme ça, l'État, non, mais certaines personnes qui sont internées à tort, lorsque le psychiatre de l'hôpital le reçoit, il est quand même capable de faire un diagnostic et de refaire sortir la personne. Il ne faut quand même pas prendre les psychiatres pour des fous, quoi. Je veux dire, on sait ce qu'on fait, on fait ce métier parce qu'on l'aime.
On ça dépend si c'est corrompu ou pas.
On fait ce métier parce qu'on l'aime, on fait ce métier parce qu'on a envie d'aider les autres et non pas pour participer à un vaste complot sociétal tel que vous le décrivez aujourd'hui, quoi, c'est ridicule. Quant à la curatelle, alors la curatelle ça pose beaucoup de problèmes évidemment, parce qu'il est vrai que parfois dans les familles les gens sont pas très honnêtes, hein. Et il est vrai que, comme c'est le cas de Patrice, il y a des histoires de détournement d'héritage, bien sûr que c'est délicat à manier cette histoire de curatelle. Mais quand même, c'est un juge qui décide la curatelle. Et je pense pas quand même que tous les juges soient des corrompus. Il faut quand même pas faire une peinture de la société comme ça. Il y a aussi des gens honnêtes, il y a aussi des gens qui bossent pour le bien des autres. Voilà, c'est ça qui me... J'avais envie de dire ça un petit peu, c'est un petit peu un coup de gueule, là.
Ils sont de moins en moins nombreux, ceux qui aident les autres aujourd'hui.
Ben, il y en a encore.
Je suis pas d'accord du tout avec cette opinion. Je pense qu'il y en a énormément. Simplement, ce sont des psychiatres de base, des juges de base, des gens qui aident... Des gens qui ne font pas forcément parler d'eux, mais qui font leur métier avec beaucoup d'amour au quotidien.
Oui, d'accord, Myriam, mais tout à l'heure, je parlerai donc d'un communiqué de presse sur les avocats du barreau de Paris qui répondent au niveau, justement, de cette réforme des soins psychiatriques sans consentement. Et tu comprendras que peut-être ça rapporte aussi à certains, finalement, que c'est très lucratif quand même.
On peut signaler l'émission précédente où j'ai signalé que le préfet de police s'est levé à 3h30 du matin pour dire aux policiers non, vous leur lâchez pas là. J'étais accusé d'avoir acheté une barrette de haschich. Moi je dis que c'est faux, mais je mens peut-être. Mais les deux autres personnes qui ont acheté,
il faut quand même l'aval du préfet, je crois. Ça se fait pas comme ça.
Attendez.
On a quand même des lois qui nous garantissent l'institution psychiatrique. C'est pas si simple que ça.
Attends, parce qu'il y a
Gérard qui arrive à l'antenne aussi. Bonsoir Gérard.
Oui, bonjour Joël, bonjour Myriam, bonjour. Ahmed.
C'est Ahmed qui est là.
Bonjour tout le monde.
Gérard. Bonjour Ahmed.
Bah, si vous êtes trois, t'es sur le même insert que Myriam.
Ouais.
Ah, donc on va pas s'entendre.
Ouais.
Bonjour, Ahmed, tu peux nous laisser un petit peu. Tu nous entends sur la radio?
Ah non, Ahmed, il reste.
Oui, je me retire alors.
Voilà, parce que le problème, c'est que quand ils sont
trois... Très bien.
On te remercie et n'hésite pas à rappeler si tu veux.
D'accord, merci beaucoup.
Merci, Ahmed.
Tu reviens,
continuation.
Il va revenir. Merci. Il prend les gens qui sont d'accord avec lui et puis les autres, il ne veut pas qu'ils restent. Il y a Myriam et Gérard.
Oui, bonjour Patrice.
Oui, bonjour tout le monde.
Oui. Au sujet de cette nouvelle loi, est-ce qu'il est possible que vous l'énonciez?
Oh, elle est longue, mais on peut la raccourcir en fait.
Non, raccourcir c'est rien. Prenez le texte en entier, parce que
vous avez l'internet, non, sous les yeux?
Non, j'ai pas l'internet.
Je vais la chercher tout à l'heure, Gérard.
Tu ne l'avais pas sous les yeux, là?
Non, là, j'ai le communiqué de presse de réforme des soins psychiatriques sans consentement. Les avocats du barreau de Paris répondent présent, bien sûr, et on va expliquer pourquoi.
Bon, et ce qui m'étonne, d'après...
Un seul certificat médical, et c'est le préfet qui décide.
Je vais la rechercher.
Le conseil constitutionnel
mais ce qui m'étonne énormément, c'est qu'il n'y ait pas au moins deux ou trois médecins.
Non, il y en a plus.
Avant
il y en avait deux. Maintenant, il n'y en a plus.
Avant, il y en avait deux, oui.
Ouais, maintenant, il n'y en a plus qu'un.
Il n'y en a plus qu'un. Et c'est pas forcément...
Et ça m'étonne qu'il n'y en ait plus qu'un. Ça m'étonne vraiment.
C'est la loi.
Ouais, attendez, avant de dire c'est la loi, c'est pas un axiome mathématique.
C'est la loi qui a été votée en juillet.
1er août.
Oui. Oui, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, là.
Je vais te la lire, je te la rechercherai.
Parce qu'imaginons que celui qui est en titre soit cinglé, justement.
Ah.
Qui est en titre, c'est-à-dire...
Le préfet.
Non, mais le toubib, ils sont pas tous sains, les toubibs.
Dire ça à Myriam.
Il y a plus grave que ça. C'est
non, j'en mets égal, c'est habituel.
Il peut être corrompu.
De la part de Gérard, je connais.
Il peut être corrompu ou... Attention, la corruption, il y a deux méthodes, le bâton ou la...
Non, mais ce que je veux vous dire quand même, c'est que il y a un peu plus de difficultés à corrompre deux personnes qui soient, éloignées, voilà, et qui sont censées ne pas se connaître. J'ai bien censé ne pas se connaître. Maintenant, les réseaux, ça existe aussi, et puis on peut tomber dans le cauchemar complet.
Quand le patient en question arrive à l'hôpital, il est examiné par un psychiatre qui est en dehors du coup.
Oui.
Et bon, voilà, quoi, il faut quand même pas, tu vois.
Qui m'étonne, c'est qu'ils en ont supprimé un sur deux.
Oui,
deux, c'est à mon avis pas suffisant.
Il n'y en a plus qu'un maintenant.
Et c'est le préfet qui décide aussi.
La loi précise qu'en cas d'internement réel dans un établissement, le psychiatre ou le médecin ne doit pas appartenir à l'établissement. Ça sera un peu trop facile.
J'ai compris. Quant au préfet, est-ce qu'il passe une visite médicale pour la salubrité de son cerveau?
Ben, moi, j'aurais bien aimé que le mien il en passe un, parce que se lever à 3h30 du matin pour expliquer aux policiers, vous savez, acheter une barrette de haschich qu'on n'a pas trouvé, donc il l'a avalé. Il faut l'envoyer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police à Paris. Ça n'existe qu'à Paris. Quant aux deux autres qui ont acheté un truc et qui avaient réellement quelque chose dans la poche, vous les relâchez. Je sais pas, moi, il y a un problème là.
En plus, tout ce que tu nous racontes, Patrice, moi je le prends comme argent comptant.
C'est réel. Dans mon blog, j'ai mis tout.
Oui, non, mais mais tu peux mettre dans tous les blogs du monde.
Alors pour répondre à Myriam.
Oui.
Le psychiatre qui m'a, alors j'ai passé la nuit en contention, hein, ils sont assez sévères, mais le psychiatre m'a examiné dans l'après-midi. Je suis arrivé à 5h du matin, j'ai pas dormi, j'avais les bras attachés, mais le psychiatre m'a relâché.
Attends, elle t'a posé une question.
Ah, voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'à l'IPP, à l'infirmerie spéciale de la préfecture de police, il y a un psychiatre de garde.
Ils m'ont relâché.
Et que le psychiatre de garde, il réexamine la personne. Et il décide soit de le garder, soit de le faire sortir.
Mais vous savez comment ça s'est passé? Il m'a dit, si je ne vous interne pas, vous allez dire c'est un coup monté ou pas? Parce que pour moi, c'était un coup monté, ce truc-là, cette histoire de barrette de haschich que je n'ai jamais achetée.
Je lui ai répondu...
Rapproche-toi du micro, parce que
plus ça va... Je lui ai répondu, mais ça, on l'avait expliqué à l'émission précédente qu'on peut télécharger, là. Je lui avais répondu, monsieur, vous devez prendre votre décision, non pas... en fonction de ma réponse, mais en fonction de vos compétences médicales et de votre degré d'indépendance. Un petit peu d'humour.
Oui.
Et au bout de quelques secondes, il m'a dit « Je ne vous interne pas en raison de votre personnalité, mais si vous étiez arrivé demain, l'autre psychiatre vous aurait interné. »
Mais oui, mais ça, c'est...
Ouais, ben ça, c'est un peu aussi...
ça, c'est aussi possible, tout à fait.
Voilà, chacun voit les choses différemment.
Oui. Enfin, le psychiatre de l'infirmerie spéciale, il a le pouvoir de relâcher la personne.
Et la suite de l'histoire qui est intéressante, qui est dans son blog.
Oui, alors, la suite de l'histoire, parce que je ne donnerai pas le nom de ce psychiatre. Mais alors, ils m'ont rendu à la police, qui m'a ramené au commissariat. Et là, je pensais être libéré. Non, on m'a transféré au dépôt. Le dépôt, pour être jugé pour achat et consommation de stupéfiants.
Ah oui, d'accord.
Puisque je l'ai avalé. Et rébellion à agent.
Alors moi, quand je pense que je paye des impôts pour de telles histoires idiotes, franchement, c'est révoltant.
Mais attendez, il n'y a pas que les impôts. C'est que rébellion à agent...
Ça a l'air des lampions. Hein. Mais je veux dire par là que ça n'a pas lieu d'être. Je veux dire, on est dans une société de merde, quoi.
Non. Et ce qui est intéressant...
Rassurez-vous, ça n'arrive qu'à moi.
Attends, est-ce que là j'ai bien compris, parce qu'il semblerait que j'ai pas bien lu ton blog, est-ce qu'on n'a pas demandé à ce fameux psy de refaire un examen? Parce qu'on, est-ce qu'on n'a pas... Ils ont constaté...
Non, je suis au dépôt.
Et contesté, oui.
Je passe en jugement en flagrant délit tout de suite. Et le juge me dit, on reporte le procès au 28 avril parce que le policier que vous avez frappé doit préparer sa défense. Bon, c'était amusant. Et je suis libéré et je rentre chez moi après deux nuits blanches, une à l'infirmerie psychiatrique et l'autre au dépôt. J'ai très mal dormi. Et j'étais privé de mes médicaments. Là, je dois respirer trois trucs par jour. Bon, je ne les ai pas eus. Mais le 28 avril... Le dealer qui m'avait vendu la barrette, c'était un récidiviste Il devait faire 4 ans de prison. Il était sorti en novembre et puis il me vend du hashish. Il cherche à me vendre du hashish en décembre.
Alors attends, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver à l'antenne qui nous écoute de province.
Hein. Non, moi je vais y aller, moi.
Moi aussi, j'y vais.
Bon, revenez quand vous voulez, mais la personne qui vient d'arriver à l'antenne, il faut qu'elle arrête son internet, sinon ça fait du larcin.
Pas tout est expliqué dans le blog.
Et je voulais quand même aussi demander à Patrice s'il n'avait pas une addiction avec les sociétés de police.
Je m'appelle Charles.
Oui,
attends Charles, parce que... Il y a un acharnement à aller les fréquenter, ces gens-là, c'est pas croyable.
Ben moi, je demande pas à aller chez eux, hein.
Bon, Myriam, tu reviens tout à l'heure si tu veux.
Bien, merci.
Voilà, ça m'arrange parce que là, il y a une personne de province qui ne connaît pas comment ça marche et elle parle sur Gérard.
Merci.
Bonne nuit, merci.
Alors,
au revoir
Myriam. Au revoir Gérard. Et donc, il y a Charles.
Bah, bonsoir à tous et bonne santé dans tous les domaines. Hein.
Bonsoir
donc,
Charles.
Voilà, je vais vous parler par exemple de mon cas pour donner comme des informations qu'il faut savoir réelles. Voilà, j'ai pratiquement 60 ans, je suis à un tas de problèmes, enfin bref, je vais pas raconter ce qui m'est arrivé, mais je suis pensionné en retraite, en invalidité, pour je suis psychiatrique. Bon. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a la loi qui vient de sortir, là, évidemment, au mois d'août. Il y en a une autre encore qui est encore moins connue, on n'en parle pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2 ans, c'est une loi qui était faite évidemment à un mois d'août aussi, toujours des voies scélérates, que par exemple, vous avez un problème de dépression. Vous allez voir vos médecins, évidemment, c'est bien prononcé, vous avez un problème d'anorexie, et voilà. Hein. Donc, le médecin traitant est censé vous garder, bon, évidemment, il y a un problème. Il téléphone à un centre psychiatrique, où il explique votre cas, et dans ce cas-là, le psychiatre, en fonction de la gravité de la chose, va dire au médecin, oui, vous me l'envoyez. Donc le médecin vous fait un papier, vous allez à l'hôpital où on vous a demandé, et là, il fait ce qui est un protocole. Vous rentrez dans ce cas-là, vous rentrez en tant que volontairement. C'est-à-dire que c'est vous qui demandez à être... regardez les mots qu'ils sont, hein, internés, provisoirement, pour pouvoir quoi, être recalé par des médicaments ou autre, pour remanger normalement et tout. Je parle de choses simples pour l'instant. J'essaye de ne pas trop popper, ça ne pop trop là, ça va le son?
Non, j'ai connu ça, j'ai demandé voilà.
Alors,
interné, moi, pendant
j'étais dans la région, pas loin.
Pour réapprendre à manger, justement. J'avais une super grosse dépression. Et on m'a proposé d'aller passer 15 jours dans un hôpital psychiatrique. J'y étais de mon plein gré. Alors, là-bas, on m'a inondé de médicaments.
Attends, parce que ce que je veux dire, si tu veux, ça, c'est un mécanisme. On a des milliers de gens pour expliquer les cas un petit peu identiques et différents. Mais ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, depuis 2 ans, il y a une loi qui est sortie, c'est l'ERAT. C'est que, admettons qu'au bout de 10 jours, hein, oui. Même à la rigueur, admettons, vous rentrez le matin, à 9h, vous rentrez le médecin, il vous pose des questions et tout ça, blablabla. Admettons qu'à 3h30 de l'après-midi ou le surlendemain, de toute manière, c'est obligé de vous garder, de toute manière, dans tous les cas, 48 heures. Et au-delà de 48 heures, bah, vous avez le droit, si vous avez envie de sortir, bah, vous le signalez à l'infirmière principale qui le communique à la direction et au psychiatre qui s'occupe de vous. Et dans l'après-midi, les papiers sont faits et vous sortez, je dis bien, dans le cas où vous rentrez volontairement de vous-même. On est bien d'accord ?
Oui.
L'hospitalisation volontaire. Maintenant, hein, vous avez eu cette sortie, vous sortez. Bon, évidemment, pour avoir la patience qui fiche ses papiers, parce que vous savez que quand on est dans un centre psychiatrique ou une clinique psychiatrique, vous êtes... au niveau de votre santé et tout, vous êtes à leur charge, votre sécurité. Si vous arrive quelque chose, c'est eux qui sont responsables. Si par exemple, vous faites n'importe quoi, que vous vous taillez, vous prenez pas, vous faites le mur, et vous arrivez à un accident dans la rue, c'est eux qui sont responsables de vous. Hein, tant que vous êtes, pour l'instant, malade et interné. Hein. Donc il y a différents niveaux. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, ben, j'y arrive, hein, parce que sinon ça va être pénible pour vous, c'est que maintenant... Le psychiatre peut refuser, même si vous êtes rentré, même si vous avez votre situation s'est améliorée, que tout va bien, n'a pas de raison à donner et peut vous interdire de sortir. Avant, on avait le droit de demander de sortir tant qu'on n'était pas dangereux, qu'on n'avait pas frappé, qu'on n'avait emmené personne. Mais maintenant, il faut savoir une chose, dans le système psychiatrique actuel, et en plus, par l'intermédiaire de mes amis, j'ai un ami qui est psychiatre, sauf que lui, bon, maintenant, il travaille plus, il est en prêt. Hein. Il faut savoir, alors ouais, où j'en viens, c'est que quand vous rentrez en psychiatrie, par exemple, si vous allez en prison, vous avez une condamnation de prison. À moins que vous y ayez tué le bon Dieu, mais je sais pas, un droit de commun, vous avez attaqué une banque, vous n'en savez rien, enfin bref, on va vous donner 5 ans, pour une dépige, dans quel qu'elle soit, hein. Si vous tenez bien, vous allez peut-être en faire que 4, mais dans tous les cas, si vous avez 10 ou 20 ans, vous avez une bête ou vous allez sortir, à moins que vous ayez eu, que vous soyez condamné à perpétuité.
Au départ, c'est
mais
pas
en psychiatrie,
les...
quand on y rentre, c'est pour savoir, il n'y a aucune garantie qu'on en sorte. Et en plus, un même.
Ouais, il faut parce que on sait qu'on y rentre.
En prison.
C'est comme la prison.
Si vous avez cassé, rentre, oui, mais en prison, au pire, vous avez cassé, je sais pas, vous avez attaqué une banque, vous avez piqué une. Vous avez cassé un truc de carte bleue, j'en sais rien. Hein. Bon, il n'y a pas mort d'homme. La prison, c'est pas l'idéal. Mais, ça sera pas marrant, mais vous arriverez à en sortir. Mais en psychiatrie, de une, si le psychiatre veut pas que vous sortiez, ben c'est et maintenant, avec les lois qui ont été faites, je parle pas seulement de celle qui a été faite, on va dire celle qui a été faite il y a 2 ans, hein, et bien, vous pouvez rester éternellement à l'hôpital. Je me souviens, et j'ai vu des exemples, il y avait une autre personne, ce serait un sujet d'émission d'ailleurs, et bien, elle devait avoir énormément d'argent, parce qu'elle coûtait à peu près, pas loin de 100 à l'équivalent de 9000 francs, hein, par jour. Et il y avait une histoire d'héritage. Parce que je voyais qu'il y avait des malades, il y a des gens, les malades, ça veut pas laisser, faut pas confondre non plus la folie et la démence. Hein. Il y a différents niveaux, hein, en psychiatrie. Hein. Et bien, ils disaient, il y en a beaucoup, ils disaient, c'est la vache. Parce qu'elle avait pas toute sa tête, j'en sais quelque chose, elle parlait à personne. Je suis la seule personne au bout d'un mois et demi, et les médecins étaient étonnés, j'arrivais à la faire parler. Sans me rendre compte, je l'ai su après, parce que je savais pas moi qui ne parlais pas. Hein. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, déjà de une, non seulement maintenant on peut vous interner très très facilement, imaginez que vous faites de la politique et que vous vous devenez gênant parce que vous commencez à marcher un petit peu dans la cour des grands. Hein. Et en plus, une fois que vous y êtes, il n'y a aucune garantie que vous en sortiez. Et si vous en sortiez, admettons que vous arriviez, on arrive à vous en faire sortir. Mais dans quel état? Parce que, à la limite, si ça se limite qu'à vous garder incarcéré, mais que vous pouvez encore vous balader dans les couloirs, regarder vos papiers de pédé dans une pièce ou qui sait quoi, ça va. Hein? Au moment que vous prenez vos médocs et que vous les emmerdez pas, ils vous emmerdent pas. Mais si vous vous présentez comme un problème potentiel, et qu'on vous détruit par une camisole chimique, bah là, on en vient un petit peu au film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous devenez un bon légume. Et là, même si vous sortez, dans tous les cas,
et surtout qu'il y a un manque...
problème pour vous et pour personne.
Surtout que moi, j'ai une amie qui est infirmière en milieu psy, comme il y a un problème de personnel. Il y a de la contention, c'est-à-dire qu'on attache les gens, on les attache, hein, c'est-à-dire comme au Moyen-Âge. On les attache sur le lit.
On fait l'isolement, on appelle ça. Ouais.
Non, en contention, c'est-à-dire qu'on...
Oui, bah, c'est une camisole tout simplement normale pour pas qu'ils se blessent et qu'ils s'abîment.
C'est, on peut pas bouger. Ouais, tu peux pas bouger, voilà.
Je peux parler en connaissance de cause. S'il y en a qui ont été parmi vous en psychiatrie, vous avez un cathéter pour vous alimenter et vous êtes pratiquement à poil pour pisser. Je vais pas rentrer dans les détails. Et au pire, si vous êtes vraiment dangereux, c'est carrément, vous n'êtes pas attaché, mais vous êtes dans une salle d'isolement capitonnée, et on vous donne à manger à travers une compte.
Ou alors on fait des contentions, comme ça on en a plusieurs dans une pièce, mais...
Voilà. Mais ça, en principe, c'est réservé pour, la démence profonde. Je pense que vous faites, il est évident que vous savez faire la différence entre la folie et la démence. D'ailleurs, la folie, entre guillemets, ce serait intéressant dans l'émission. À partir de quel moment on peut définir la. Quel est le. Est-ce qu'il y a un point de repère pour définir la folie? À partir de quel moment il y a la folie ou il n'y a pas la folie?
Ça, je ne sais pas, mais ça va être difficile.
Que je suis fou de joie, ça ne veut rien dire.
Ouais, je suis fou de joie. Ouais.
Bah, c'est fou de joie par rapport à quoi? Si je suis fou de joie en regardant quelqu'un se faire assassiner dans la rue et que ça me fait marrer, on pourra pas dire que c'est très sain. Par contre, si je dis que je suis fou de joie en regardant, je sais pas, Fernand Hainaut ou Laurel et Hardy, là, ça serait logique.
Ouais.
Vous voyez, je dis des extraits, mais justement. Alors, justement, au niveau de la loi, ce qui serait intéressant de savoir, les avocats, pour qu'ils se battent là-dessus.
Bah, je le dirai un peu.
Comment, à partir de quand, on peut définir que quelqu'un est fou? Par rapport à quoi est-ce qu'il y a une norme? Par exemple, en mathématiques, il y a des normes, il y a les calculs. En trigonométrie et tout, ils sont là, c'est carré. Hein. Il n'y a pas 106 solutions. Hein,
mais il y a des tests.
Il y a une réponse hein à votre question, c'est que officiellement, c'est soit quand vous êtes dangereux pour autrui, soit quand vous êtes dangereux pour vous-même. Hein. Quand vous faites des actes dangereux pour autrui, bon, vous, moi je cours après tout le monde avec un parapluie, par exemple. Où je suis, j'ai les poumons en dentelle, j'ai un emphysème et je fumerai des joints. Voilà. Donc dans les deux cas, on me prive de liberté pour me soigner.
Pour te sauver.
Mais en réalité, tout est faux.
J'ai une histoire drôle à vous raconter.
Oui.
Le dernier condamné à mort, vous vous rappelez, c'était il y a 30 ans. Hein.
Ralucci.
Voilà, il paraît que au moment de passer à l'exécution, ils l'ont emmené devant la guillotine. Je crois que c'était encore la guillotine. Ils lui ont donné deux cigarettes à fumer. Ils lui ont refusé la troisième. Et c'est moi qui rajoute la fin. Et vous savez pourquoi ils lui ont refusé la troisième? Parce que c'est mauvais pour la santé.
Non, mais là, je rajouterai encore un truc encore plus aimant. C'est que on donne une cigarette à un condamné à mort, hein, et on refuse une cigarette. En plus, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le paquet de cigarettes? Fumez-tu. Mmh. Et ça veut dire que l'État sait qu'il vend un produit qui vous tue. Donc, il est conscient qu'il vous tue. Donc, il est jugé parti.
Ben là, ils voudraient légaliser la drogue parce que ça ferait de l'argent dans les caisses aussi. Donc, mais c'est pas le sujet de l'émission.
Il a quand même raison de.
Oui, mais ça, on le sait, on n'arrête pas de le dire. Et l'alcool aussi, ça tue.
Non, mais vous avez quand même raison de signaler le fait qu'on vend un produit qui tue, on le marque dessus.
Voilà.
Ce qui importe, c'est de gagner de l'argent.
Mais ça, c'est un sujet d'une autre émission, peut-être. Mais je vais reparler un petit peu du problème psychiatrique.
Donc l'État,
il nous touche tous, attention. Hein. Vous savez, n'importe qui, vous savez, on peut n'importe qui, même on peut être milliardaire comme misérable, et avoir une dépression. Moi, ouais, ça m'est pris d'un seul coup comme ça, on s'y attend pas du tout. Et ben, vous avez pour manger, et ben, vous mettez un truc à la bouche, mais ça passe pas. Ça passe pas, de dire si vous forcez, vous vomissez. Il n'y a rien à faire, il y a un blocage total. Il
n'y
a rien à faire et vous perdez du poids. Donc, on a automatiquement des problèmes. Bah, vous évanouissez, vous avez des problèmes parce que vous êtes en hypoglycémie et tout le bordel.
J'ai connu ça en 2001. Justement, c'est pour ça que j'ai demandé à aller 15 jours, ça a duré 3 semaines, dans cette clinique. Mais la première chose qu'on va demander dans cette clinique, c'est de verser 2500 francs. Or, c'était le montant de mon chômage. Et bon, ils ont négocié 1500 francs. Mais je ne pouvais plus manger. Je mastiquais, j'étais incapable d'avaler. Et c'était un problème de solitude absolue. Je rentrais des USA, où j'avais plein de monde là-bas, et je rentrais dans un pays où j'avais perdu tous mes amis, mon carnet d'adresse et tout. Les seules personnes qui me parlaient, c'était les gens, les commerçants, qui me disaient voilà votre monnaie, enfin, bonjour et tout. Et ce que vous venez de dire là, l'impossibilité d'avaler, je l'ai connu. Et je sais pas comment ça se produit, comment ça arrive.
C'est un blocage, vous savez, le cerveau humain est compliqué. Hein.
J'arrivais plus à manger.
Mais vous qui avez connu ça, vous comprenez parfaitement la situation. Et j'espère que personne n'aura, qui nous écoute n'aura à le vivre. Parce que pour s'en rendre compte, il faut le vivre. C'est incroyable, hein. Vous pouvez être de très bonne humeur et tout. Et d'un seul coup, c'est comme, je sais pas, je vais faire une métaphore, c'est comme si d'un seul coup, vous apercevriez qu'il vous manque une jambe, j'en sais rien, un truc comme ça, quoi. Il y a un truc qui marche plus.
Moi, voilà. C'était la solitude absolue.
Mais toi, on peut se tutoyer. Tu étais rentré, mais volontairement. Donc,
l'objectif, c'était de réapprendre à manger et à parler avec des gens autour de moi.
Mais au niveau protocole, quand tu étais passé par ton médecin, par le psychiatre, quand il t'a admis, tu étais considéré comme malade, mais tu es rentré volontairement.
Ouais, c'est, c'est pas moi qui ai eu l'idée.
Psychiatrie, on est bien d'accord, par un Pierre ou par un juge.
C'est une psychiatre que j'ai fréquenté de moi-même pour la première fois. Et c'est elle qui a eu l'idée. Mais en fait, son idée, c'était d'emplir les poches de cette clinique qu'elle connaissait
très
bien.
Mais par
contre, le coût des 2500
où
francs.
Où tu étais, est-ce que tu avais. Bon, tu es resté peut-être pour 2-3 semaines, tu as dû être certainement sous perfusion.
Non, pas du tout. Mais ils m'ont inondé le médicament et ça changeait toutes les semaines. Et je devais rentrer pour 15 jours. Au bout de 3 semaines, je m'en suis enfui. J'avais le droit de sortir, j'ai signé la décharge.
Si tu leur as demandé de pouvoir sortir au bout de 3 semaines, je me m'en allais, c'est fini.
J'ai fait ma valise et tout. Et j'ai
non, mais est-ce que tu leur as demandé, je ne demande pas si tu t'es tiré, ça c'est aucun autre problème.
Si, parce qu'il t'a dit qu'il a signé la décharge. Donc s'il a signé la décharge,
dans ce cas-là, oui. Mais maintenant, il faut savoir que l'histoire de la décharge, ça n'existe plus. Si le médecin. Ah mais bon, j'espère que ça n'arrivera pas parce que je pense que ça c'est très rare. Mais supposons que vous tombez sur un psychiatre, je sais pas, vous avez une tronche qui ne revient pas, qui
ne peut pas vous encadrer. C'était l'objet de votre appel au début, de nous faire remarquer ça.
Eh bien, il sait ce qu'il fait, il vous isole totalement et vous passez votre vie dans la clinique.
Mais Charles, en tous les cas, je vais la lire.
C'est... Ce que j'ai fait, je pourrais pas leur faire aujourd'hui, quoi, c'est ça.
Je vais le lire le département.
Mais en fait, ils m'ont fait une fleur parce que la décharge, finalement, ils ont marqué qu'ils accordaient ma sortie, comme ça, j'avais pas de problème avec la sécu et tout.
Mais est-ce que finalement, ça t'a fait du bien ce séjour là-bas? T'as retrouvé l'appétit?
Moi, je sais que ça m'a sauvé.
Donc, ça t'a fait du bien.
Attention, sur un personnel médical qui jouait ça, c'était en 98-99. C'était une clinique déjà, privée. Je ne dirais pas le nom pour ne pas provoquer des problèmes. Où il y avait des gens extraordinaires, une gentillesse, des ergothérapeutes qui m'ont sorti, qui m'ont débloqué. Des gens extraordinaires qui avaient de l'aura. J'ai eu cette chance-là. Mais parmi les gens que j'ai fréquentés d'abord, il y en a eu qui sont passés près de la mort parce qu'ils ont failli se faire poignarder, pas où j'étais, mais ils venaient d'un. Si vous voulez, ils avaient dû faire les choses un peu plus graves, ils venaient d'un centre psychiatrique plus dur, et comme ça allait mieux, ils arrivaient là. Hein, pour eux, ils me disaient, ici, c'est les vacances hein, par rapport à où on était. Lui, il y a quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Il y a quelqu'un qui malheureusement était vraiment malade profond, a failli lui planter une fourchette dans la nuque. Et l'autre gars, qui son copain qui était à gauche, lui a rappelé le point. Sinon, maintenant il serait dans une chaise roulante. Voilà.
Ok, mais on va peut-être parler de cette nouvelle loi. Donc on te remercie de ton appel, Charles. On va faire une pause musicale.
Merci de nous avoir précisé qu'on ne peut plus sortir comme ça avec
cette nouvelle loi. Là, que tu as
voilà, donc
on rentre volontairement et on peut
merci,
pas en sortir.
Charles.
Au revoir.
Merci Charles.
Merci.
On fait une petite pause là, toujours avec les CD que t'as amené, et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, c'est Michael Edge. Alors, il voudrait que, finalement, c'était pas vraiment le meilleur. Donc, celle-ci, elle est pas très longue. Elle fait 3 minutes.
Et c'est la première, All Along the Watchtower. C'est la Bob Dylan.
Allez, c'est Bob Dylan. Et alors, Patrice Henin, H-E-N-I-N, blog, pour ceux qui ont envie d'aller voir le blog.
C'est comme Henin Beaumont pour ceux qui aiment Marine Le Pen.
Be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. It's too much confusion, and I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plow and dig my earth. None of them alone. What any of it's worth. No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many here among us feel that life is but a joke.
IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM. Donc ça c'était le point.
Il y a le collectif de 39 sécuritaires. Leur texte est bon, mais c'est des sympas.
Alors là c'est le point, le journal Le Point. C'était le 22/06/2011. Le Parlement adopte définitivement la réforme sur le soin psychiatrique. Le texte très controversé a été approuvé à l'issue d'un ultime vote à l'Assemblée nationale. Donc c'était le mercredi. La source, c'est l'AFP, l'Agence France Presse. Donc le texte. La réforme de l'hospitalisation d'office a été définitivement adoptée mercredi par le Parlement, mais les députés du Nouveau Centre et du PS redoutent une application difficile de ce texte technique devenu encore plus complexe au fil d'un parcours législatif chaotique. Le projet de loi a été définitivement approuvé lors d'un ultime vote de l'Assemblée, mercredi, sans passer par la case commission mixte paritaire. La CMP, c'est le centre médico-psychiatrique, je crois. Il y avait 7 députés, 7 sénateurs. Comme prévu initialement, il a en effet été voté dans une version conforme à celle du Sénat. Ce texte est inapplicable et sera, bon, elle a déjà dit ça. Alors, il faut dire que le texte déjà touffu et complexe au départ, de l'aveu même de son rapporteur, a connu un parcours semé d'embûches. Il a dû d'abord intégrer une première question prioritaire de constitutionnalité, puis faire face à la démission de la présidente de la commission des affaires sociales du Sénat, et en fin d'examen, tenir compte d'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel. Jean-Luc Préel, du Nouveau Centre, a souhaité bon courage à la secrétaire d'État à la Santé, Nora Béra, pour harmoniser les dispositions en contradiction et a lui aussi pronostiqué une application difficile et complexe. Il nous est demandé de voter un texte en sachant qu'il pose un problème, a-t-il expliqué. Nora Béra a répondu que les textes réglementaires étaient en cours de préparation, ainsi que des outils pédagogiques pour expliquer la loi, citant notamment des fiches techniques ainsi qu'un... Un site internet dédié avec une foire aux questions. Alors, est-ce que c'est un texte sécuritaire? Le texte prévoit l'intervention d'un juge judiciaire au-delà de 15 jours pour une hospitalisation d'office à la demande d'un tiers imposée par la première QPC. Alors, cette fameuse QPC, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, c'est la question prioritaire constitutionnelle. Alors, donc, au-delà de 15 jours pour une hospitalisation d'office à la demande d'un tiers imposée par la première QPC, et aussi quand elle est à la demande du préfet, c'est la deuxième QPC. Le préfet peut, par ailleurs, ordonner l'hospitalisation d'office même si un certificat médical estime que ce n'est pas nécessaire. Mais il sera désormais tenu de lever la privation de liberté si un second certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission l'estime nécessaire, selon cette décision du 9 juin qui a censuré deux articles du Code de la Santé publique. Le texte prévoit l'instauration de soins sans consentement à domicile. Dès le début de son examen, il a suscité une levée de boucliers chez les syndicats de psychiatres. Il est taxé de sécuritaire par le collectif des 39 contre la nuit sécuritaire, qui dénonce la mise en place d'une garde à vue psychiatrique et d'un fichier psychiatrique. Si Marc Dolez, GRD, a dénoncé un texte avec une vision sécuritaire des malades, Jean-Luc Préel l'estime équilibré. Le projet de loi avait été initié fin 2008 par Nicolas Sarkozy, après le meurtre d'un étudiant à Grenoble par un malade mental qui s'était enfui de l'hôpital. Il instaure également une possibilité d'hospitalisation d'office en cas de péril imminent. Quelques 70 000 personnes sont hospitalisées sous contrainte chaque année. Nora Ben a annoncé au cours des débats un plan santé mentale pour l'Europe. Et ce que je voulais te lire là, à toi, Patrice Hénin, si tu reviens, c'est, tu sais, le texte que je, voilà, ce fameux communiqué de presse que je te demande d'écouter parce que tu vas pouvoir le commenter. Tu me l'as commenté tout à l'heure. Tu m'entends, Patrice? Et il arrive. Il fait quelque chose qui devrait pas. Il est tellement stressé, là. Bon. Alors, réforme des soins psychiatriques sans consentement. Les avocats du barreau de Paris répondent présents. Depuis le 1er août, la réforme des soins psychiatriques sans consentement, introduite par la loi du 5 juillet 2011, est entrée en application. Dorénavant, le juge des libertés et de la détention doit exercer un contrôle systématique 15 jours après l'hospitalisation et tous les 6 mois pour les hospitalisations sans consentement à la demande d'un tiers ou d'un représentant de l'État. Cette loi constitue une avancée certaine sur le terrain des libertés. Le barreau de Paris s'est donc mobilisé très en amont afin que les avocats puissent assister et conseiller les justiciables lors de ces audiences d'un nouveau genre. Depuis plusieurs mois, des formations ont été organisées afin de constituer un pôle d'avocats spécialement préparés. Ils assurent depuis le 1er août une permanence à chaque audience devant le JLD. C'est quoi le JLD ? Le juge des lois, je sais pas, pour garantir l'assistance de toutes les personnes hospitalisées d'office, qu'elles demandent la présence d'un avocat à leur côté avant l'audience ou en début d'audience. Des avocats vont également représenter les personnes qui ne peuvent se déplacer et le barreau de Paris a fait en sorte que les personnes puissent, avant l'audience, s'entretenir en toute confidentialité avec un avocat. Cette réforme devrait générer près de 4000 dossiers devant le JLD, le barreau de Paris, traitant ceux en provenance des hôpitaux Maison-Blanche, Perret, Vaucluse et Sainte-Anne. Alors, forcément, ça fait travailler les psys, ça fait travailler...
Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de, d'auxiliaire de justice. Si, on en embauche.
Tu peux te mettre devant ton micro, s'il te plaît. Merci.
On en embauche.
On embauche des avocats.
C'est inapplicable par manque de personnel. Les avocats sont submergés.
C'est comme la garde à vue.
Et puis, elle est où la psychiatrie là-dedans? Elle est où le côté sanitaire là-dedans? On est en pleine justice, on est dans un tribunal. La personne a passé 72 heures minimum.
Remets-toi, tu le rebouges ou tu l'avances, voilà. Remets-toi devant.
La personne a passé 72 heures minimum avant de voir un juge dans quel état elle est. Après sa camisole chimique, parce qu'on la traite, on la soigne.
Oui, et puis on la traite.
Ensuite, elle va. Ce que les avocats eux-mêmes disent, les auxiliaires de justice ou les avocats ou même les juges, des peines, des libertés et des peines, c'est JLP, hein, c'est pas JLD.
C'est JL. Oui, c'est peut-être. Attends. JLD. JLD, juge.
Ils sont pas en état de comparaître.
C'est quoi JLD? S'il y en a qui savent ce que ça veut dire, JLD, 01 34 12 12 22. J'oublie de donner le numéro d'appel de l'antenne. JLD, ça pourrait être quoi? Parce que ça, c'est du jargon encore d'avocat, là.
Oui, mais dans quel état se présente la personne? En ambulance?
Devant le juge des. Je sais pas.
JLP, c'est le juge des libertés et des peines. Ils ont peut-être changé peine par...
délit, je ne sais pas. En tous les cas, ces avocats, ça va leur faire du travail, parce qu'il y a aussi la garde à vue. On demandait un avocat tout de suite. Tu es d'accord?
C'est pour ça qu'ils disent que c'est une avancée.
C'est une avancée pour
eux. C'est une avancée dans leurs revenus.
À eux, oui.
Il y a 22 000 avocats, rien que pour Paris.
Cette réforme devrait générer près de 4000 dossiers devant le CGLD, le barreau de Paris, traitant ceux en provenance des hôpitaux de Maison-Blanche, Perret-Vaucluse et Sainte-Anne.
Signalé que le salaire, la consultation non remboursée par la Sécu d'un psychiatre, ça va jusqu'à 160 euros. Le psychiatre est tenté de faire ce qu'on lui dit. Sinon, on va aller voir un autre psychiatre.
Alors, j'ai même pas regardé s'il y avait des messages live, s'il y avait des gens qui s'intéressaient au problème. Non, je pense que ça marche pas. Il n'y en a pas, donc c'est très bien comme ça.
4 ans moins 10.
Je suis pas très occupée.
Il y a ce problème de surcharge, mais c'est une manne pour les avocats.
Et pour les psys aussi.
Mais le côté sanitaire est complètement éliminé là-dedans. On est en pleine justice, on parle d'avocats, on parle d'internement de 72 heures minimum. Là, c'est porté à 10 jours avant que... au bout de 10 jours, si vraiment on vous fait avaler des pilules, il y a des piqûres, on parle de piqûres, de produits qui sont addictifs, c'est vraiment une personne qui tiendra à peine debout, qui ne pourra pas s'exprimer devant un juge.
Donc ça sera vraiment une malade.
Et en plus, cette personne, elle va déballer son dossier médical en public. Le jugement est public. Il y a des gens qui l'ont fait remarquer, ça. Où est le bien de la personne là-dedans? Quel est le but de... Est-on vraiment en train de soigner des malades? Ou est-ce qu'on est en train de fabriquer des malades pour enrichir les avocats qui ne savent plus comment faire pour trouver de l'argent, pour valoriser une profession, la psychiatrie, qui était plutôt mal jugée. Et puis, dans quel état se trouve? Mais le malade, il est complètement laminé, il est complètement détruit. Et il faut savoir qu'ils sont pas si bêtes que ça, parce que c'est pas tellement l'internement en hôpital. Les hôpitaux ferment les uns après les autres. Moi, personnellement, je devais aller à l'hôpital Esquirol parce que ceux qui habitent dans le 12e arrondissement vont à Saint-Maurice, l'hôpital Esquirol. Il est fermé. Donc, je vais en hôpital de jour où je suis astreint, si je suis condamné. Et je suis condamné, hein. Je suis en appel, là. au mois de décembre, janvier, février, je ne sais pas quand est-ce que ça va tomber, l'appel va tomber. Et alors, je serai astreint. J'ai 8 mois de prison avec sursis. Et je choisirai la prison, bien sûr.
Mais si c'est du sursis, tu ne les as pas.
Jusqu'à l'appel.
Oui, non, mais c'est...
Sursis jusqu'à l'appel.
Ok, mais c'est le sursis, c'est du sursis, quand même.
Non, parce que moi, je refuserai les soins médicaux. Je préfère aller en prison avec des gens relativement normaux que d'avoir le cerveau ravagé par des drogues. Mmh. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a expliqué tout à l'heure, dans quel état ça vous met. Vous êtes complètement lobotomisé, c'est comme ça, on vous arrache, on vous détruit le cerveau, et en plus, on vous drogue. Et là, c'est une manne financière, non plus pour les avocats, mais pour les industries pharmaceutiques. On a évalué le nombre de clients potentiels à 200 000.
Par an. C'est par an, hein, les chiffres. Je les avais donnés dans la première émission, mais le nombre de personnes qui sont internées...
Les victimes qui se sont signalées là, à cause de l'émission précédente, on dit 600 000, c'est un minimum, ça fait déjà 1% de la population française, et ça va augmenter avec le vieillissement de la population. Mm. Il y aura de plus en plus de gens vulnérables et à qui on voudra piquer l'appartement et tout ça. Parce que on en revient toujours au même problème, ce merdier, allez, allons-y, sert à voler, à enrichir des... On n'est plus en civilisation qui cherche à soigner, c'est tout. Ce que disait...
faire du profit, c'est-à-dire que ça soit rentable. Disait,
on est en plein mensonge. Mm. Le mensonge, il est partout. On vit dans une société factice. La psychiatrie, c'est plus un truc qui sert à vous soigner d'une maladie. Cet hôpital, cette infirmerie psychiatrique de la préfecture de police a été créée en 1872, comme je l'avais dit à la précédente émission, pour ramasser les fous furieux dans la rue. Il y en avait quelques-uns quand même. Hein, des gens qui faisaient n'importe...
Mais il y en a dans la rue qui sont
c'était,
pas bien...
C'était fait pour ça.
Mais même en ce moment-là, il y en a dans la rue qui ont des problèmes psy. Hein.
Ben, il y en a de plus en plus, parce qu'avec tous ces chômeurs, tous ces gens qui... et puis les gens qui viennent de l'étranger, qui ne parlent même pas le français, qui sont complètement déracinés...
Mais on le voit qu'ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à parler, ils sont sous médoc, hein, de toute façon.
Mais
ils ont du mal à parler, ils ont du mal à s'exprimer.
Ou même des gens très bien, des cadres qui travaillent et que l'on terrorise, qui finissent par se suicider...
Mais ceux-là, ils ne posent plus de problèmes.
Non, mais on fabrique des malades. Une société malade ne peut pas fabriquer autre chose que des malades, avec des lois comme ça en plus.
Donc dans Le Monde, il disait, un projet de loi destiné à réformer les hospitalisations sans consentement en psychiatrie est actuellement en cours de discussion, mais elle a été votée. Hein. Ce projet déplace les équilibres sociaux et civils entre respect des libertés et droit à la protection. D'après le droit encore en vigueur, tout citoyen qui a à un moment donné, n'est plus capable de décider pour lui-même et dont l'état de santé psychique nécessite des soins intensifs, peut se voir hospitalisé contre son gré, après avis médical, soit à l'initiative d'un tiers, soit à l'initiative du maire ou du préfet. Il pourrait désormais, selon le projet de loi actuellement débattu, faire l'objet d'une obligation de soins psychiatriques et ambulatoires après une hospitalisation. Ces soins sans consentement consisteraient par exemple en des consultations régulières, mais aussi potentiellement en un traitement médicamenteux obligatoire. Donc c'est passé, hein. C'est passé, la loi, c'est voté. Ils étaient très peu à la voter.
J'ai interrogé 2 députés.
Ils étaient 14, hein, c'est ça. 7 députés, 7 sénateurs.
Non, mais moi j'en ai interrogé 2, personnellement. Un, qui est le député, on peut dire le nom, puisque c'est un élu, c'est un homme public. Le député, et en plus c'est quelqu'un qui me paraissait sympa, au cours d'une réunion pro-Villepin, des militants Villepin, je recevais des messages et tout, rendez-vous au bistrot, rue Voltaire, là au carrefour de la rue des Boules. J'y ai été, puisque je voulais parler. Il n'y a pas que la radio.
Et puis tu voulais savoir aussi ce qui se passait.
Je voulais savoir ce qui valait aussi. Et je savais qu'il y avait un député. Bon, et j'ai demandé à ce député, mais vous l'avez voté cette loi ? Vous l'avez voté cette loi ? Mais il m'a répondu, mais Quelle loi? Je lui dis, c'est une loi qui viole l'article 1er de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme. Oh, mais vous savez, il y a tellement de lois et tout. Je lui dis, mais c'est quand même important, ça. C'est...
Il y a Corinne qui arrive et puis qui vient nous dire, d'abord on lui dit bonjour, mais est-ce que
bonjour.
C'est que le JLD déjà,
bonjour Joël, elle... bonjour monsieur. Pour le JLD, c'est le juge des libertés et de la détention.
Ah,
d'accord.
Merci.
C'est juste une petite parenthèse. Concernant le sujet que vous étiez en train de relater sur les internements en psychiatrie, etc. Déjà, il y a une chose qui est inadmissible, c'est que tout le monde peut un jour être appelé à se retrouver en psychiatrie. Ça peut arriver à n'importe qui. La perte d'un être cher ou autre choc. Et que l'on mélange toutes ces personnes ensemble, déjà, c'est pas bon pour les gens d'être mélangés tous ensemble. Et puis qu'il y a certaines façons de soigner les gens avec, moi, ce que j'appelle des camisoles chimiques qui sont inadmissibles et qui n'aident pas les gens et qui, bien au contraire, empirent la situation, empirent la pathologie.
Ce que vous venez de dire, ça a été remarqué par le fait de mélanger des gens qui n'ont pas les mêmes pathologies.
Oui.
Je ne sais plus qui l'a fait remarquer, mais ça a été signalé, effectivement. J'ai lu un article dans l'Internet là-dessus.
Parce que, donc, vous savez, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui perd un être cher et qui a un choc et qui se retrouve hospitalisé parce qu'il est dans un état vraiment où il a besoin d'avoir recours à une hospitalisation. Et il va se retrouver avec quelqu'un qui souffre d'une autre pathologie qui est complètement différente de lui ou d'elle. Et comment il va s'en sortir, mélanger tous ensemble pour soigner ces personnes?
Ben, s'ils sont pas dans la même chambre, ils seront au moins dans la même cantine et tout ça. Mais il faut préciser que il est de moins en moins question d'hospitalisation, d'internement. Il est de plus en plus question de soins ambulatoires. C'est-à-dire que vous êtes prisonnier chez vous. Ça coûte moins cher.
Tout à fait. Hein?
Les hôpitaux ferment les uns après les autres. Mais vous êtes astreint à suivre des soins. Vous allez voir un médecin qui va vous faire des piqûres. Et c'est une manne financière. Alors là, j'ai lu d'autres articles. Il y aura de plus en plus de clients. C'est une manne financière pour les industries pharmaceutiques. Parce que non seulement vous êtes astreint à les prendre, mais en plus c'est addictif. Vous ne pouvez plus vous en passer.
Alors, oui, parce qu'il y a la dépendance.
C'est addictif et pour les... c'est une piqûre par mois, c'est ça, hein?
C'est addictif. Je n'ai pas les détails. Hein,
mais
médecin.
Non, mais moi j'ai... On va laisser tousser. Moi, je connais un jeune, donc finalement, qui prend des médicaments comme ça. C'est addictif et en plus, c'est
destructif.
Non, mais c'est le contraire de. Il n'y a plus d'érection. C'est des jeunes qui sont castrés. Une castration aussi physique, c'est-à-dire qu'il n'a plus de possibilité d'avoir une vie sexuelle. C'est-à-dire que ça lui casse toute sa vie parce qu'il est très jeune, hein, celui-là. Donc, ça, il faut aussi comprendre ça, c'est-à-dire que c'est une mainmise totale sur une personne.
Oui, et combien de personnes qui prennent ces médicaments à la suite d'un choc, quel que soit le choc, et qui après, au bout d'une semaine, ils ont automatiquement la dépendance. Combien de personnes actuellement prennent des benzodiazépines alors que, bon, ils ont eu un problème à un moment donné de leur vie? Plutôt que de les écouter et de chercher des solutions, on leur prescrit bêtement des médicaments, pour pas citer, mais je vais me permettre de citer celui, les Valium, les Lexomil, les Temesta. Combien de personnes prennent tous ces médicaments-là et qui après, une fois qu'ils veulent les sevrer, parce que mentalement, psychologiquement, ils vont bien, mais qu'ils ont cette dépendance que leur corps leur réclame tous les jours à une heure précise de prendre un médicament, eh bien nous, en France, il n'y a personne pour aider ces gens qui ont besoin.